VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 4 décembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. L'UEMOA débloque 50 milliards de francs CFA pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays confrontés au terrorisme. Emmanuel Macron invite les présidents du G5 Sahel pour qu'ils clarifient leurs demandes sur la présence militaire française dans la région. Donald Trump a annulé sa conférence de presse à l'issue du sommet du 70e anniversaire de l'OTAN près de Londres. Le Congrès américain a débuté le débat juridique sur la procédure visant la mise en accusation du président Trump. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Dans l'est de la République démocratique du Congo, un centre de santé près d'une unité de traitement d'Ebola et une installation de Médecins sans frontières ont été attaqués à Biakato Mine, a annoncé MSF. L'ONG a précisé qu'elle retirait tous ses effectifs non congolais de cette zone où trois agents congolais d'une équipe anti-Ebola ont été tués dans une attaque il y a une semaine. Le président français Emmanuel Macron a invité à Pau, en France, le 16 décembre, les présidents des pays du G5 Sahel. Paris veut qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France pour sa présence militaire antiterroriste au Sahel. Éric Manirakiza.
Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français au Sahel alors que l'ambiguïté perdure à l'égard des mouvements anti-français, a averti le président Macron à l'issue du sommet de l'OTAN. Paris estime que ses leaders africains doivent l'affirmer politiquement dans leur pays devant leur opinion publique.
Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence ? Ont-ils besoin de nous ? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Leurs réponses sont aujourd'hui une condition nécessaire à notre maintien.
La France n'est pas là avec des visées néocoloniales, impérialistes ou avec des finalités économiques. On est là pour la sécurité collective de la région et la nôtre, a plaidé le président Macron. Il a aussi expliqué vouloir organiser une présence plus forte et plus structurée de la France au Sahel par une nouvelle coalition autour de Paris, en lien avec ses partenaires européens et africains.
En sommet extraordinaire à Dakar, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont décidé de décaisser 100 millions de dollars au profit du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les trois pays les plus exposés au terrorisme dans le Sahel. C'est Dina Abagué.
La conférence des chefs d'État de l'UEMOA a décidé d'une contribution immédiate de 100 millions de dollars, soit près de 60 milliards de francs CFA, pour participer de façon urgente au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire. Cette somme est destinée aux trois membres de l'Union présents dans la ligne de front du G5 Sahel. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, affirme que cette contribution s'inscrit dans l'engagement de l'Union de participer à hauteur de 500 millions de dollars au plan de la CEDEAO dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans l'espace régional sur la période 2020-2024. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a aussi exprimé sa grande préoccupation concernant la recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Abdallah Bourema a par ailleurs indiqué que les chefs d'État de l'UEMOA ont adopté un acte additionnel instaurant un fonds de sécurité. 6 des 8 chefs d'État des pays de l'UEMOA ont pris part à la session extraordinaire. Il s'agit des présidents du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, du Niger, Mahamadou Issoufou, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Togo, Faure Gnassingbé, du Bénin, Patrice Talon et du Sénégal, Macky Sall. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Un tribunal sénégalais a condamné à 2 ans de prison avec sursis le maître d'une école coranique où des élèves étaient enchaînés. Le procureur avait requis 2 ans de prison, dont 2 mois ferme. Récemment, les sympathisants de Sékou Naguère avaient saccagé le tribunal pour qu'il soit relâché avec ses co-prévenus, 4 parents et le forgeron qui a fabriqué les chaînes. La police togolaise a arrêté 18 personnes soupçonnées d'avoir participé le 23 novembre à des agressions contre des gendarmes à Lomé et à Sokodé, blessant 5 d'entre eux, dont un qui a depuis succombé à ses blessures. Au Mozambique, 10 braconniers ont été condamnés à 16 ans de prison pour avoir braconné sur les terres d'un parc national, ont annoncé les juges. Le Mozambique a fait revivre lentement ses réserves d'animaux sauvages après la guerre civile qui a fait 1 million de morts et a affecté la vie sauvage. Le procès pour corruption de deux anciens premiers ministres algériens s'est ouvert à Alger en l'absence des avocats qui ont décidé de le boycotter. Ce procès avait été ajourné dès son ouverture lundi, la défense ayant dénoncé une justice politisée et un climat de règlement de compte. Les conditions ne permettent pas aux avocats d'accomplir leur mission, a déclaré Maître Mohamed Majoub au juge, qui a ainsi demandé aux avocats de quitter la salle d'audience avant de poursuivre le procès. La police antiterroriste marocaine a annoncé le démantèlement d'une cellule djihadiste et l'arrestation de 4 personnes au cours d'une opération conjointe menée au Maroc et en Espagne. Et le prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu, âgé de 88 ans, a été hospitalisé au Cap. L'ancien archevêque anglican a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des dernières années. Il souffre d'un cancer de la prostate.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants de l'OTAN ont dressé le bilan de 70 années d'existence de l'Alliance et identifié les nouveaux défis dans une déclaration commune à la fin du sommet de l'organisation transatlantique à Londres. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après la déclaration commune, l'OTAN reste le fondement de la défense collective et le forum essentiel pour les consultations et la prise de décision en matière de sécurité entre alliés. Jens Stoltenberg, chef de l'OTAN.
Tous les dirigeants ont été très clairs. Nous sommes tous ensemble pour un et un pour tous. Notre engagement à l'article 5, la clause de défense collective de notre alliance reste consolidée.
L'Alliance estime que les actions de la Russie constituent une menace pour la sécurité de ses membres. Toutefois, elle dit être ouverte au dialogue avec le Kremlin. Les alliés ont reconnu les opportunités et les défis posés par la Chine. Washington exhorte l'Europe à exclure Huawei du développement des réseaux 5G, craignant que ces équipements soient utilisés par Pékin pour espionner. Les alliés ont réitéré leur engagement à consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires d'ici 2024. Ils s'engagent aussi à poursuivre leurs efforts contre le terrorisme.
L'émissaire américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, actuellement à Kaboul, va retourner au Qatar pour reprendre les discussions avec les talibans interrompues en septembre par Donald Trump, a annoncé le département d'État. À Doha, l'ambassadeur Khalilzad va discuter des étapes pouvant mener à des négociations inter-afghanes et à une résolution pacifique de la guerre, indique un communiqué. L'enquête parlementaire des démocrates en vue de la mise en accusation du président Donald Trump est entrée dans une nouvelle étape. La commission du renseignement de la Chambre des représentants a remis son rapport à la commission judiciaire qui a commencé aujourd'hui des auditions publiques. Idriss Fall.
Jerry Nadler, président de la commission judiciaire, a déclaré, je cite, « En demandant à Kiev d'enquêter sur Joe Biden, son potentiel rival, Donald Trump a directement et explicitement invité une ingérence étrangère dans nos élections. Il était prêt à mettre en péril notre sécurité et ses fonctions pour son bénéfice personnel et politique », a-t-il ajouté. Cette procédure est une imposture, a répondu le républicain Doug Collins, numéro 2 de cette commission, reprenant une ancienne déclaration de Jerry Nadler pendant la procédure contre Bill Clinton. Il a réitéré que ce coup d'État partisan sera marqué d'infamie dans l'histoire de la nation. Pour sa part, le président Trump a qualifié de blague le rapport d'enquête qui contient, selon les démocrates, des preuves accablantes de sa conduite inappropriée. « C'est une très mauvaise chose pour notre pays, c'est une blague », a fustigé M. Trump lors d'une rencontre avec le premier ministre italien en marge du sommet de l'OTAN à Watford, près de Londres.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a souligné ce mercredi l'importance des relations en matière de renseignement avec les États-Unis dans la décision britannique d'exclure ou non le géant chinois des télécoms Huawei de la réalisation des infrastructures. Et le pape a annoncé la démission de l'évêque du diocèse américain de Buffalo, Richard Malone, mis en cause pour sa gestion d'un vaste scandale de pédophilie. Elle fait suite à d'autres démissions, notamment d'évêques auxiliaires à New York et à Los Angeles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Le Mali prévoit de dépenser plus de 13 milliards de francs CFA pour le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale en 2020. Ce projet, soutenu par la Banque mondiale, accorde une priorité aux infrastructures de transport routier. Il permettra l'aménagement de 400 km de pistes rurales, dont 200 km dans la région de Sikasso et 200 km dans le Koulikoro. Les fonds permettront aussi de construire 3 ponts dans les villages de Djungula, Fanyena et Nchobougou. Ils serviront également à former et sensibiliser les chauffeurs et conducteurs routiers, ainsi qu'à sécuriser les routes. L'Union européenne veut donner environ 21,6 milliards de francs CFA au Togo d'ici 2020 pour lui permettre de mettre en œuvre des réformes en matière de gestion des finances publiques, de la décentralisation, de l'amélioration du climat des affaires et du système national de statistiques. Les fonds permettront aussi au pays de promouvoir une croissance socio-économique inclusive et stable. Pour terminer, l'institution panafricaine Africa Finance Corporation investit 50 millions de dollars dans la société d'Anakali qui s'active sur le projet de potasse érythréen Kolouli. Ces fonds permettront à faciliter le démarrage des activités de développement du projet Kolouli afin qu'il entre en production d'ici 2022. Kolouli renferme 1,1 milliard de tonnes de réserves de potasse. Le projet représentera environ 50%, soit 537 millions de dollars des exportations totales de l'Érythrée en 2030 et 3% du PIB d'ici 2021.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La short list révélée par le joueur africain de l'année.
Oui, de 30, il ne sont plus que 10 joueurs en lice pour le prix de joueur africain de l'année. On y retrouve les favoris Sadio Mané et Riyad Mahrez, Ismaël Benasset, meilleur joueur de la CAN 2019 avec le Nigérian Odion Ighalo, le Camerounais André Onana ou encore le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le Marocain Hakim Ziyech, l'Égyptien Mohamed Salah, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l'Algérien Youssef Belaïli sont aussi sur cette short list. Chez les dames, entre autres prétendantes, les Camerounaises Njoya Adjaranchout et Gabrielle Ongene, la Nigériane Aziza Oshoala, la tenante du titre sud-africaine Thembi Gatlana et la Malawite Tabitha Shawinga. Les lauréats seront désignés le 7 janvier prochain au Caire, en Égypte.
Le Zamalek change d'entraîneur.
Oui, le club Kairot a décidé de se séparer de son entraîneur Micho Seravjovic pour résultats insuffisants. Il était sur la sellette depuis la défaite en ouverture de la Ligue des champions de la CAF contre le tout-puissant Mazembe. Micho, à la tête du club depuis juillet dernier, s'en va après 12 matchs dont 7 victoires. Pour le remplacer, le Zamalek a coché le nom de Patrice Carteron. Le technicien français est sans contrat depuis son départ du Raja Athletic Club de Casablanca. Il connaît bien l'Égypte pour y avoir déjà entraîné le Wadi Degla et surtout Al Ahly.
Le PSG a signé un partenariat touristique avec le Rwanda.
Oui, le Paris Saint-Germain a officialisé un partenariat de 3 ans avec le Rwanda, un contrat dont le montant n'a pas été précisé et qui engage le club à promouvoir le tourisme dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le double champion de France est le second club à s'engager dans la campagne Visite Rwanda. Après Arsenal qui a signé un tel partenariat en mai 2018, ce partenariat prévoit que des joueurs du PSG se rendent au Rwanda. En relatant leur visite sur les réseaux sociaux, ils porteront la marque Visite Rwanda au dos de leur tenue d'entraînement et d'avant-match. Le slogan sera aussi visible sur la manche des maillots de l'équipe féminine.
Et la Ligue des champions féminines a adopté la phase de poule.
Ça se fera à partir de l'édition 2021-2022 sous la forme d'une phase de poule qualificative pour les quarts. Le comité exécutif de l'UEFA a validé le principe d'une phase de groupe à 16 avec 4 poules de 4 équipes s'affrontant en match aller-retour. Un système similaire à celui pratiqué chez les messieurs. Lancé en 2001 sous le nom de Coupe féminine de l'UEFA, la Ligue des champions dames présente pour l'heure un format avec un tour préliminaire sous forme de poule, puis un tableau principal débutant à partir des 16e de finale dont les affiches sont souvent trop déséquilibrées et de faible intérêt sportif.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition maintenant les dossiers du jour. Au Sénégal, un tribunal a condamné aujourd'hui à 2 ans de prison avec sursis le marabout Chekouna Gueye, maître d'une école coranique où des élèves étaient enchaînés. Ces 5 coprévenus ont également été reconnus coupables et copés de la même peine dans cette affaire semblable à plusieurs cas d'écoles coraniques révélés notamment au Nigeria. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar le journaliste Alassane Samba Diop.
D'abord, il faut dire que enchaîner des talibés, c'est une longue pratique traditionnelle qui a toujours existé au Sénégal aux temps anciens, parce qu'avant, les marabouts attachaient les talibés pour les empêcher de fuir pour qu'ils puissent apprendre leur leçon. Donc, il y a certaines zones à l'intérieur du pays où certains marabouts pratiquent ce genre de situation sur des enfants. C'est pourquoi c'est un peu compliqué, parce que c'est une tradition qui a existé au Sénégal depuis la nuit des temps, mais le verdict qui s'est déroulé au niveau du tribunal de Louga, où le marabout Chekouna Gueye a été condamné à 2 ans avec sursis, à coup sûr, il y a une pression de la justice, on peut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle un verdict d'apaisement.
Vous invoquez la coutume, est-ce pour dire qu'il y a une emprise religieuse sur l'autorité de l'État?
Ah ben c'est clair. Ce qui se passe aujourd'hui, ça le dit clairement. C'est clair que s'il n'y avait pas cette manifestation de talibis, s'il n'y avait pas cette intervention des marabouts sur ce qui s'est passé à Louga, ce qui est clair que ça pourrait ne pas se passer comme ça s'est passé aujourd'hui.
En quelque sorte, les parents et l'État ont démissionné de leur mission.
Oui, c'est les parents. Les parents, vous ne pouvez pas avoir votre enfant. Vous dites au marabout, je vous donne mon enfant, occupez-vous de tout de lui, vous ne participez pas à son éducation, vous ne payez pas son éducation. Pourquoi l'État du Sénégal ne fait pas des écoles coraniques, la même chose qu'ils savent des écoles françaises? Recruter des maîtres, leur payer des salaires, les mettre dans des conditions, ils apprennent la religion là-bas. Je pense que les enfants qui sont aussi dans les écoles coraniques ont les mêmes droits que les enfants qui vont dans les écoles françaises.
Le calife général des Mourides, qui a l'oreille des politiques, qu'est-ce qu'il en dit clairement?
Non, le calife, il a dit que quand les gens se veulent lui raconter ce qui s'est passé avec cette histoire de marabout qui a été emprisonné suite à cette affaire de chienne passée au pied des enfants, le calife a demandé que les gens restent calmes, que de laisser lui s'en occuper, que l'état des Mourides se calme par rapport à cette histoire, lui il va s'en occuper. Visiblement, il y a eu peut-être une discussion entre Khalif et le pouvoir politique, parce que quand le président de la République, Macky Sall, était parti dans un village qui s'appelle Kayel, c'était la journée de l'élevage, il en a profité pour aller se rendre visite au Khalif général de Mourid. En ce moment-là, je pense que la discussion était secrète, mais certainement, cette question a été abordée entre les deux personnalités.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'interdire publiquement cette situation?
Non, c'est plus subtil que ça. Au Sénégal, le jeu entre pouvoir et pouvoir maraboutique ne se déroule pas comme ça. Il y a une sorte d'entente tacite entre les deux pouvoirs dans la gestion des questions des dites sensibles. Je pense qu'ils ne vont pas interdire nommément comme ça. Ils vont essayer quand même d'essayer de gérer une situation qui se déroule entre les deux personnalités. Le Khalife général de Mourid n'a jamais interdit publiquement ce genre de choses. Mais il y a quand même d'autres aussi marabouts, d'autres Sénégalais qui sont indignés de cette situation qui se déroule avec les jeunes. Les gens demandent aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus de pédagogie vis-à-vis des maîtres coraniques pour qu'ils comprennent que ces pratiques surannées n'ont plus lieu d'être.
Est-ce qu'il est contre cette pratique, au moins?
Mais on n'a pas réellement, il n'y a pas réellement une position claire par rapport à ça. Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu dire que lui-même il est contre ces pratiques de façon réelle. Il n'en a pas parlé.
Notre confrère Alassane Samba Diop était joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Comparution ce mercredi à N'Djamena de Mahamat Nouri Bédou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, suite à une plainte pour diffamation. Le plaignant Bokit Bahar Mahamatitno reproche à M. Ibédou de l'avoir injustement accusé de torture dans la région du Ouaday. Timothée Donangmaï a joint Makaïla Ngebla, journaliste blogueur tchadien.
Au Tchad, on peut instrumentaliser la justice à des fins politiques pour neutraliser les acteurs politiques, pour neutraliser les responsables de la société civile. Et c'est le cas de Mamadou Ibédou qui a produit un communiqué de presse il y a cela pratiquement deux semaines, dénonçant effectivement l'arbitraire que fait régner à Abéché le neveu de Dizébi, Bokit Bahar Igno. Ce dernier a arrêté un citoyen abéchois, il a maltraité chez lui à domicile. Et c'est quand Mamadou Ibédou avait dénoncé cela, ça lui a valu une réaction d'un autre neveu de Dizébi qui se trouve au Canada, qui est consul, je ne sais pas vous conseiller, de l'ambassade du Tchad au Canada. Et à partir de là, on commence à chercher effectivement des pouces sur la tête de Ibédou. Et la deuxième accusation, c'est qu'on reprochait à Mamadou Ibédou d'être complice avec un membre de la CTDH qui aurait été à l'origine de l'assassinat d'une fille qui remontait en 2014. Or, ces membres ont intégré la CTDH, la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, qu'en 2016. Donc nous ne comprenons pas. Hier, on avait traduit Mamadou Ibédou devant la PJ. On a fait comprendre que c'était pour une diffamation. À son encontre, ça a été une plainte de bruit. Ce matin, on l'accuse d'être complice d'un assassinat dont l'auteur n'est autre qu'un membre de la cité. Donc, en tout cas, on reste ambigu au niveau du Tchad.
Pour ce qui est des gens dont Mamadou Nouri Bédou a pris la défense, apparemment, ces personnes se sont rétractées. On dit qu'elles n'ont pas été victimes d'abus.
Justement, c'est que vous savez qu'au Tchad, on est dans une pression terrible parce que l'armée est complètement une armée clanique. Elle est dirigée par Idriss Déby lui-même, par ses parents. Et en plus, les gens sont cités à Bissé. À Bissé, vous savez, c'est une zone qui est pratiquement à 500 km de N'Djamena. Et donc, un préfet, un chef, un militaire fait régner la terreur sur les populations. Les gens se sont rétractés justement parce qu'il y a une forte pression sur ces personnes. Donc, ces gens sont rétractés parce qu'il y a une peur. Il y a une peur bleue, il y a une terreur qui s'est abattu sur et pour permettre à la justice tchadienne d'ouvrir cette enquête, nous pensons que c'est une véritable machination pour avoir la tête d'Ibédou qui est vraiment visée depuis la démarche de cette procédure judiciaire. Nous sommes convaincus que on ne cherchait qu'Ibédou. Donc, effectivement, ces gens ont été bel et bien victimes de la terreur que refait René Bokit Bahar Igno. Et ces gens, effectivement, ont été terrorisés de nouveau par Bahar Igno pour leur dédire. Ils se sont dédiés pour permettre à la justice tchadienne d'ouvrir une enquête.
Makaïla Ngebla, journaliste blogueur tchadien, était joint à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi autorisant désormais à la mère d'adjoindre son nom à celui du père pour les naissances. Ce dispositif autorise désormais l'enfant à porter un double nom. Les détails avec Aïcha Diarra.
Le gouvernement ivoirien a adopté ce projet de loi autorisant désormais à la mère d'adjoindre son nom à celui du père. Cette décision concerne aussi bien les enfants nés d'une filiation légitime comme d'une filiation naturelle hors mariage. Ce dispositif autorise désormais l'enfant à porter un double nom. Les Ivoiriens, quant à eux, ont un avis partagé sur cette décision. Pour Koulibaly Moumine, il y a plus important à gérer dans ce pays qu'un problème de nom de famille.
Bon, moi je pense que vraiment il faut aller à l'essentiel. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le problème de la Côte d'Ivoire? Il y a des choses plus importantes que tout ça là. Donc moi, je ne vois pas de sens. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont décidé, mais moi, en tout cas, à mon avis, je ne vois pas d'importance.
Certains ont un sentiment partagé comme Kwame Kwaku, professeur à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Mon avis en tant qu'Africain, Ivoirien, perçoit un peu mal cette décision. L'enfant a toujours porté le nom du père. Maintenant, en tant qu'intellectuel africain, je suis de cet avis-là parce que c'est une très bonne décision. Surtout que souvent, on a des hommes irresponsables qui vont engrosser les femmes et qui disparaissent.
Pour autant, d'autres Ivoiriens beaucoup plus fermes, cette décision n'avait même pas lieu d'être. Ouattara Idriss est instituteur.
Ça m'a paru un peu bizarre, oui, parce que l'enfant a toujours porté le nom de son père. Bon, en plus du nom de son père, il ne voit pas pour le moment l'importance d'y ajouter le nom de la mère à côté. Il ne sait pas exactement ce que ça veut dire, en tout cas, il ne sait pas. En tout cas, si moi j'ai fait aujourd'hui un enfant, il ne veut pas opter immédiatement pour cette option. Oui, l'enfant portera le nom de son père que je suis. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord.
Traoré Assita va beaucoup plus loin dans son rejet car selon elle, les femmes ne sont pas toujours de bonne moralité.
Moi, ce que je peux dire, ce n'est pas normal. Nom de père, c'est suffisant. Parce que nous, les femmes, souvent, on est bandites.
Pour d'autres, par contre, cette décision est normale parce que l'enfant appartient aux deux parents. C'est le cas de Kofi Aya.
C'est bon, puisque c'est mon enfant aussi.
Et Diallo Anna Maria.
C'est bon, c'est une bonne idée. Oui, moi, je suis d'accord. C'est votre enfant à vous deux, donc c'est normal.
Aïcha Diara à Boaké pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, nouvelle phase dans les efforts de la Chambre des représentants en vue de mettre en accusation le président Donald Trump. Le dossier a été transmis à la commission judiciaire de la Chambre qui doit rédiger les chefs d'accusation pour que l'affaire soit jugée au Sénat. Les détails dans un reportage de Catherine Gibson, récit de Lionel Gaïman.
Après 3 mois d'enquête et d'audition, la commission du renseignement de la Chambre a rassemblé les faits incriminants.
Ce rapport relate un plan du président des États-Unis visant à contraindre un allié, l'Ukraine, en guerre contre un adversaire, la Russie, à faire le sale boulot du président.
La commission judiciaire de la Chambre, présidée par le démocrate Jerry Nadler, tient une audience ce mercredi pour déterminer si les actions du président Trump sont passibles de destitution. Les démocrates ne sont pas parvenus à en fournir la preuve, estime le républicain Doug Collins.
C'est la première mise en accusation avec des faits non seulement contestés, mais aussi contradictoires. Était-ce un échange de bons procédés et y a-t-il eu une pression réelle lorsque les deux participants à l'appel, le président des États-Unis et M. Zelensky, disent tous les deux qu'il n'en était rien?
Donald Trump a qualifié les audiences de démocrates de canulars.
C'est très antipatriotique pour les démocrates d'agir de la sorte. Je pense que c'est une mauvaise chose pour notre pays.
L'opinion publique américaine est divisée sur la question, selon les sondages d'opinion. Mais pour les démocrates, l'abus de pouvoir dont s'est rendu coupable le président Trump est une grave affaire.
Sommes-nous prêts à dire que désormais nous devons nous attendre à ce que ce président et ceux qui suivront se livrent à une certaine corruption qui compromettrait la sécurité du pays et réduirait l'importance du serment présidentiel?
Une fois les articles de mise en accusation rédigés par la commission judiciaire de la Chambre, c'est au Sénat, dominé par les Républicains, que se déroulera le procès, probablement en début d'année. Au moins 20 sénateurs républicains devront se joindre à la minorité démocrate du Sénat pour démettre le président Trump de ses fonctions. Chose peu probable en l'état actuel des choses.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est moi
sugar. Lovely, lovely, baby. Dere, say my word. Come on, come on, baby. Say my daddy sugar. Lovely, lovely, baby. Dere, say my word.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Lionel Gaïma, Emmanuel Lopez. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous. En musique avec Toufan Perretere.